Rennes outragée, Rennes brisée, Rennes martyrisée, mais Rennes libérée.
4 août 1944. Deux mois après le débarquement en Normandie, l'armée américaine, sous les ordres du général George Patton, reprend la capitale de la Bretagne. Rennes est libérée. 80 ans plus tard, Syllab revient sur la libération de Rennes à travers le regard de celles et ceux qui l'ont vécu, de leurs descendants et descendantes, mais aussi des gardiens et gardiennes de leur mémoire. Épisode 1, Histoire de résistante.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne?
Souvent, je me suis demandé comment je réagirais si demain la France était occupée, comme en 1940. Qu'est-ce qu'elles ont fait à l'époque, les femmes comme moi, à la veille de la trentaine, parfois déjà mères? Je connais beaucoup de noms de résistants, des résistantes, moi. Leur nombre est difficile à situer, entre 12 et 25% des effectifs, selon les estimations des historiens et historiennes. En Bretagne, terre de maquis, les combattantes étaient bien présentes dans ces rangs, jusqu'à la veille de la libération. Jacqueline Saint-Clévier est professeure d'histoire contemporaine honoraire à l'Université Rennes 2. Elle est spécialiste de la France du XXe siècle, de la Bretagne et de la Deuxième Guerre mondiale.
Les femmes, on va les retrouver dans la résistance d'une façon différente et équivalente de celle des hommes. Lorsqu'elles sont à des postes apparemment insignifiants, du genre secrétaire dans une préfecture, un sténodactylo dans une préfecture, voire femme de ménage, mais pouvant récupérer ce qui traîne dans les corbeilles. Une femme travaillant à la SNCF, elle ne va pas faire de sabotage sur le matériel parce qu'elle n'est pas en train de travailler sur les voies ferroviaires, alors que, évidemment, elles vont, par exemple, celles qui sont au guichet, pouvoir donner des renseignements à la résistance. Donc elles vont agir un peu différemment. Ce sont elles aussi qui vont héberger ceux qui sont pourchassés, quelles qu'en soient les raisons, qui vont les ravitailler à l'hôtel du Cheval d'Or, place de la Gare, à Rennes. C'est la mère et la fille. Les hôtels étaient réquisitionnés en grande partie. Donc, elles pouvaient très bien avoir des Allemands dans l'hôtel, tout en agissant, en hébergeant des résistants qui passaient là, etc. C'est ça aussi.
Cette mère et cette fille, à l'hôtel du Cheval d'Or, ce sont Anne-Marie Tanguy et Paulette Redouté. Anne-Marie Thomas et leur fille et petite fille.
Ma grand-mère avait acheté un hôtel-restaurant place de la Gare à Rennes en 1935. Elle était veuve à cette époque-là et donc elle tenait l'hôtel toute seule. Et ma mère, qui est encore aux études, l'aidait donc dans certaines tâches de l'hôtel. Le 18 juin 40, les Allemands sont arrivés à Rennes. Et là, ma grand-mère, elle n'a pas du tout accepté la présence des Allemands parce qu'elle l'avait beaucoup supporté, cette présence pendant la guerre 1914-1918. L'invasion allemande, pour elle, ce n'était pas possible. Son hôtel a été réquisitionné pour héberger des officiers allemands qui travaillaient à la gare de Rennes puisque l'hôtel était juste en face de la gare. Donc, elle a été obligée d'accepter ces officiers allemands. Et puis petit à petit, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Elle s'est mise à écouter, à essayer de comprendre ce que faisaient les Allemands et tout ça. Comme elle avait un caractère assez fort et assez volontaire, elle n'hésitait pas à en parler dans son café, que ça commençait à bien faire, que personne ne faisait plus rien et qu'il fallait quand même contrer cette présence-là. Et elle a été enrôlée ainsi dans un réseau de résistance. Elle devait fournir des renseignements à la résistance locale et à l'Angleterre, les transports de militaires, les transports de matériel, les transports de munitions. Elle en avait connaissance du fait qu'elle côtoyait les Allemands. Elle a commencé ainsi à transmettre des messages. Elle a aussi reçu des responsables de réseaux de résistance qui faisaient étape chez elle, sachant qu'ils auraient été bien reçus et qu'ils pouvaient être aidés d'un moyen ou d'un autre. Et elle a fait partie d'un deuxième réseau de résistance qui était celui de l'hébergement des alliés qui avaient été parachutés pour rejoindre la côte bretonne et ainsi reprendre un bateau un peu clandestin vers l'Angleterre. En avril 1944, elles ont été dénoncées et tout le monde a été arrêté. Elles ont été internées à la prison Jacques Cartier. Elles ont été interrogées d'une manière assez brutale parce que justement les Allemands qui les ont interrogées ont été d'autant plus surpris de leur attitude, du fait qu'ils croyaient qu'ils étaient de vraies collaboratrices parce qu'elles étaient toujours très aimables et très arrangeantes avec les officiers allemands. Donc ils ne comprenaient pas du tout qu'ils les aient trahis comme ça. Au 2 août 1944, c'est-à-dire la veille de la libération de Rennes, elles sont parties avec le fameux train de Langeais. Elles sont arrivées à Belfort le 15 août 1944. Elles sont parties le début septembre au camp de Ravensbrück. Jusqu'en avril 1945. Elles avaient été choisies la veille de Pâques pour être envoyées à la chambre à gaz. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la chambre à gaz, elle n'était pas très grande, donc ils ne gazaient qu'un certain nombre de personnes. Le mardi, il y en a eu un nombre qui a été pris, le mercredi, le jeudi, le vendredi, il y a encore eu un nombre de choisis. Elles n'étaient toujours pas dans ce lot-là, et donc il en restait encore un certain nombre. Et l'Allemand qui était présent, il dit, bah, celle-là, ça sera pour la fournée de mardi, puisque le lundi de Pâques, il ne travaillait pas. À ce moment-là, maman, elle me disait que, quand est arrivé le vendredi, qu'ils n'ont pas été choisis, il dit, là, j'ai cru mourir, parce qu'il dit, c'est fini. On a deux jours à attendre, mais deux jours à attendre la mort, parce que de toute façon, mardi, c'est notre tour. Alors que ma grand-mère, elle avait toujours le moral. Elle dit, si, ma fille, tu vas voir, il y aura quelque chose, on va s'en sortir, il y aura quelque chose, on s'en sortira. Et elle a eu raison, parce que le lundi de Pâques, il y a eu le même Allemand qui leur avait dit que c'était pour la fournée de mardi, qui leur a dit, les Françaises, vous pouvez sortir des rangs parce que vous êtes libérées. Elles ont été libérées parce qu'il y a eu une transaction qui a été faite entre le gouvernement français, le gouvernement allemand et la Croix-Rouge internationale qui a permis un échange de prisonnières. Par train, elles sont arrivées jusqu'à Paris. Et à Paris, elles ont été reçues par le général de Gaulle. Ma grand-mère, elle a continué à se battre jusqu'à la fin de sa vie pour se faire reconnaître comme avoir fait des actes héroïques. Et donc, elle a été reconnue à ce titre-là. Mais il fallait insister fortement.
Épisode 2, s'informer sous l'occupation, le parcours du combattant. Dès l'arrivée des Allemands à Rennes, en juin 1940, les entreprises de presse sont mises sous séquestre. Imaginez un peu. À l'époque, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Quand la radio est brouillée et que l'Ouest éclair, ancêtre de West France, paraît après validation de l'occupant, comment s'informer sur l'avancée des troupes alliées ?
L'Ouest éclair reprend vers le 5-6 juillet, comme si de rien ne s'était passé. Il y a le marché aux fleurs avec une photo, place de la mairie.
Étienne Maignan, rennais d'à peine plus de 5 ans à l'époque, est devenu un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale.
Pas un mot sur les bombardements allemands qui a eu lieu, qui a tué 1000 personnes, pas un mot là-dessus. Hein. Et puis la vie reprend. Il y a un fait étrange. Le 6 juin 1944, l'Ouest éclair titre « Aujourd'hui, arrivée de poissons ». Et alors, le censeur allemand dit « Ah, peut-être que c'est un message !» Arrivée de poissons, débarquement américain, non, il y a eu une arrivée de poissons annoncée. Les Rennais n'avaient pas assez de poissons, le poisson partait vers la région parisienne. Voilà le genre de choses qui se passaient. Ils étaient sous contrôle allemand. Un journal qui accepte de paraître pendant la guerre, en zone occupée, et forcément est un journal qui est amené à collaborer. Au tout début, il y a des journalistes qui, en 40, n'ont pas voulu tremper dans ce genre d'encre. Hein. D'autres, sans barguigner, ont accepté de travailler sous les fourches codines de la censure allemande. Ils vont faire leur chou gras des bombardements anglo-américains. Regardez ce que vos libérateurs sont en train de vous faire. Ils tuent vos femmes, vos enfants, ils vous bombardent de 6000 mètres d'altitude.
Jacqueline Saint-Clivier, professeure d'histoire contemporaine honoraire à l'Université Rennes 2, spécialiste de la France du XXe siècle, de la Bretagne et de la Deuxième Guerre mondiale.
Du côté de la famille Hutin qui possédait l'Ouest éclair, il y a une mise en retrait de leur part. L'un d'eux va effectivement agir dans la résistance par ailleurs. En revanche, on va avoir d'autres qui vont rester. Pour faire tourner le journal, il y a des employés. Certains ont pu continuer à travailler dans le journal, tout en étant, en cas de la résistance, en essayant de camoufler des gens, etc. Et d'autres ont pu être collaborateurs. L'un des problèmes auxquels on se heurte avec Ouest France, hein, héritier donc, de l'Ouest éclair, c'est le problème de l'accès aux sources, puisqu'il n'y a jamais eu moyen d'avoir les sources existantes sur le sujet de la part de West France. Ça permettrait de mieux montrer les ambivalences de la période, les difficultés, parce que tout le monde ne peut pas abandonner son métier du jour au lendemain. Donc c'est tout cela qui sans doute pourraient mieux surgir et être mieux visibles. Les Français n'étaient pas dupes, mais s'ils achetaient le journal, parce que ça, on peut se dire, bah oui, mais enfin, ils achètent quand même le journal. Mais c'est parce que dedans, il y avait tous les renseignements pour la question du ravitaillement. Quel ticket était utile pour acheter des œufs, du beurre, enfin, etc. Par ailleurs, il y avait le cinéma, avec les actualités cinématographiques. Et donc, ces actualités, normalement, c'était dans le noir. Mais étant donné que très vite ça a été sifflé, elle se faisait donc avec la lumière allumée ou en partie allumée. Et là aussi, si c'était sifflé, c'est qu'on voyait bien que c'était faux, enfin que c'était de la propagande. C'est pour ça que les Français savaient très bien que c'était censuré, donc capables d'interpréter ou de lire entre les lignes. C'est ce qui fait aussi qu'ils cherchaient à se renseigner par la radio, par la BBC.
La TSF, on avait Radio Paris, hein. Puis des gens écoutaient la BBC un peu en douce, parce qu'il ne fallait pas laisser l'aiguille sur le poste BBC dans la journée, si d'aventure on venait vous faire une visite domiciliaire et qu'on voyait que c'était sur tel canal, ça pouvait être ennuyeux. Donc les gens écoutaient la BBC le soir en général.
Ici Londres, les Français parlent aux Français.
On entendait sur la BBC... Les émissions « Les Français parlent aux Français » avec Jean Marin, Pierre Bourdan. Et puis on entendait aussi « Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand.
Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. »
Autrement dit, ne croyez pas les mensonges de Radio Paris, écoutez-nous plutôt.
Le premier journal clandestin, c'est en 1941, il s'appelle « La Bretagne enchaînée ». Et il a été essentiellement rédigé par des enseignants ou des étudiants du lycée de garçons, ce qui correspond au lycée Zola aujourd'hui. Il y a eu 6 numéros jusqu'au moment de l'arrestation de certains rédacteurs. Autrement, il y a eu un journal du Front National de lutte pour l'indépendance de la France qui est lié au Parti communiste, Le Pays Gallo, à partir surtout de 1942. Par ailleurs, il y avait des journaux clandestins arrivant de Paris. En disant ça, je pense au journal Défense de la France. Il y a eu aussi Témoignages chrétiens. Du fait de l'organisation de la résistance, il y a des relais un peu partout. Pour les journaux, en général, ça passe par les trains quand ils viennent de Paris. Et puis ensuite, c'est diffusé ici ou là. Donc, par exemple, Madame Elie, qui était sur le quai du Gué Trouin, qu'on appelait le prophète en pseudonyme, est elle-même une résistante, qui tenait une épicerie. Et donc, il y avait du passage. Donc, c'était un petit peu plus facile, entre guillemets, pour aller récupérer la presse.
Le 1er août 1944, c'est le dernier numéro de l'Ouest Éclair. Le 3 août, la résistance a pris en main la presse, les journaux qui vont être mis sous séquestre. Mais l'Ouest Éclair va reparaître dès le 7, quelques jours après. Les rotatives sont là, prêtes à fonctionner. Hein. Et puis, on garde un certain nombre de journalistes avec un nouvel état d'esprit, l'état d'esprit de la France gaulliste, qui vont travailler tout de suite.
Épisode 3, Rennes libérée.
Quand il y a eu le bombardement de l'économique, mon mari voyait que j'avais si peur. Il m'a emmenée à Saint-Mais-le-Grand, 45 km quand même qu'il y avait, sur son vélo, assise sur le cadre, sans coussin, sans rien du tout. Et il me disait, lève tes pieds pour que je puisse pédaler. Alors vous voyez ça d'ici, comment que c'était bien. Et on montait toutes les côtes à pied.
Témoignage d'Anna Cavalier, enregistré en 2012 par les archives municipales de Rennes.
Et les gens s'en allaient à pied, hein, vous savez. Ils partaient, ils avaient tellement eu peur. On allait se cacher, vous savez, quand il y avait alerte, on allait dans les bâtiments de Citroën, au coin de la rue du Pont-des-Loges et de l'avenue Janvier. Dans l'abri, alors, on avait même des Allemands avec nous, vous savez, parce qu'ils habitaient eux aussi, quelquefois, le meublé. Ils disaient, regardez ce qu'ils vous font, vos amis. Parce que, naturellement, c'était souvent les Anglais. Alors, les uns pleuraient, les autres priaient, les autres juraient. Le plus beau, c'était de se retrouver tous à la sortie. Mais avec tout ce qu'on voyait. Oh là là, une fois, j'ai vu les laveuses. Il y avait un lavoir dans la rue du Bonnet-Loge. Eh bien, il y avait une qui s'en allait avec son talon, qui suivait par derrière. La chair, c'était pas beau. Il y avait beaucoup de morts. Mais...
c'est pas une sinécure. Il y aura des bombardements tout le mois de juin et le mois de juillet 44 aussi, pour empêcher les troupes allemandes de remonter de Bretagne ou du sud-ouest vers le front de Normandie. Là, ce sont des bombardements lourds qui font à peu près chacun au moins 200 tués.
Étienne Ménion, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, 9 ans à la Libération.
Rennes était un centre important pour l'administration allemande. Il y avait là une Feldkommandantur, c'est-à-dire une commandanture départementale, mais avec quasiment un rôle régional, puisqu'il y avait un préfet régional de l'administration française de Vichy. Et puis aussi, Rennes étant un grand carrefour ferroviaire et routier, il y avait, route de l'Orient, un dépôt de la Kriegsmarine. C'était un dépôt de pièces spécialisées pour l'équipement des sous-marins. On pouvait alimenter La Rochelle, L'Orient, Saint-Nazaire, Brest, voire Cherbourg. Et donc, c'était un lieu important pour les Allemands. Pour la libération même, qui ne commence que le 1er août, pas de bombardement. Général Wood, qui commande la 4e division blindée américaine, par Ultra. Ultra, c'est un système de renseignement secret qui utilisait les informations de Enigma. Général Wood sait, avant les Allemands, que Rennes ne sera pas une task force gardée. Après un dernier combat, le 3 au soir, la ville de Rennes ayant été encerclée par les Américains, par l'ouest et par l'est, les Allemands sont dans une nasse, pratiquement. Dans la nuit, ils ont fait sauter tous les ponts. Premier pont à minuit, rue Gambetta, et puis vers 4-5 heures du matin, tous les autres ponts. Quand ils en reçoivent l'ordre, ils vont quitter Rennes par des petites routes, parce qu'ils savent que toutes les routes nationales sont occupées par les Américains. Ils vont s'exfiltrer de nuit pour gagner essentiellement Saint-Nazaire. Le 2 août et le 3 août au matin, les Allemands, non seulement ils font sauter les ponts, mais ils font partir deux trains de résistants et des résistantes, et qui vont partir vers l'est. 2 x 900 personnes, 1800, il y en a un tiers qui ne vont pas revenir. La résistance n'a rien fait.
Jacqueline Saint-Clivier, professeure d'histoire contemporaine honoraire à l'université Rennes 2, spécialiste de la France du XXe siècle, de la Bretagne et de la Deuxième Guerre mondiale.
Les résistants de l'époque s'étaient posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais ils n'en avaient pas les moyens matériels. Du fait qu'ils étaient très peu armés, c'est plus du niveau du revolver qu'autre chose, hein, il ne faut pas rêver là-dessus. C'est une résistance qui a déjà été largement réprimée. Il y a eu de nombreuses arrestations au printemps 44. Donc ceux qui ont pu échapper sont partis dans les campagnes et autres.
Le 4 au matin, vers 8h30-9h, les premiers chars par deux voies, la route d'Antrain, qui a été baptisée depuis Avenue Patton, et par la rue de Fougères, rentrent dans Rennes. Avant les blindés, ce sont des fantassins du 13e régiment d'infanterie blindée qui rentrent dans la ville sans tirer un coup de feu. Il n'y a plus d'Allemands. Le matin, les Rennais, étonnés, aperçoivent ces fantassins, puis après des bruits de blindés, des jeeps, des chars, ils sortent des drapeaux qui devaient être dans des coins qu'ils avaient déjà préparés, et puis c'est les embrassades, les Américains donnent du chocolat, des cigarettes, de la gomme à mâcher qu'on appelle bizarrement chewing gum, les gens apprennent le mot parce que c'était un mot inconnu, et puis des machins avec un petit étui, ils ouvraient ce petit étui, oh, c'est bizarre, etc. Il faisait des ballons, c'était des préservatifs.
Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles.
Rennes est la première grande ville libérée. Avant, il y a eu Caen, mais c'est une ville moins importante en nombre d'habitants à l'époque. Alors, Rennes est détruite à 11% à peu près, bien entendu, autour du quartier de la gare, près des ponts, puisque ça a sauté à ce moment-là, donc évidemment ça a des répercussions. Au moment de la libération, il y a eu effectivement des femmes tondues. C'est une façon de reprendre le pouvoir de la part des hommes, consciemment ou inconsciemment. C'est ce que nous, on peut analyser aujourd'hui. Bien souvent, les femmes se retrouvent victimes de viols par l'occupant allemand, mais il y a eu aussi des viols par les GI. On a de jeunes hommes qui sont accueillis en libérateurs. Certains, à partir de là, se croient un peu tout permis, quoi. On peut imaginer aussi que bon nombre de GI font pas trop la différence entre un pays qu'ils libèrent et un pays qu'ils occupent.
Épisode 4, 80 ans de mémoire. Rennes, pied des avenues Patton et Rochester, nom de l'immeuble, le Missouri. Pourquoi tous ces noms à consonance anglophone? Peut-être que les résidents en savent un peu plus.
Salut. Damien Leclerc, j'habite au square Armand de la Rouerie. Audouin Hamon, donc j'habite au square Hamon de la Rouerie, 8e étage, et bien sûr au Missouri.
Le nom du Missouri, c'est le nom d'un cours d'eau aux États-Unis. Après, j'en sais pas plus.
Je sais pas trop, parce que quand on arrive ici, on voyait pas trop, enfin on savait que ça s'appelait Missouri, mais on savait pas du tout le rapprochement. Voilà. Déjà, oui, c'est un cours d'eau aux États-Unis. Mais le boulevard à côté, c'est le boulevard Patton, qui a libéré Rennes il y a 80 ans. Après, je sais pas s'il est originaire de cette région, mais peut-être. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça s'appelle le Missouri. Après, les autres bâtiments, je sais pas s'ils ont aussi un nom en rapport avec, justement, Patton ou pas.
Un spécialiste devrait pouvoir m'en dire plus. Joël David est un ancien employé de la ville de Rennes, chargé d'odonymie. Ça tombe bien, l'odonymie, c'est l'étude des noms de voies de communication.
Les immeubles s'appellent Mississippi, Missouri et Floride. Et c'est pas par hasard non plus. Si le square qui se trouve à l'angle de l'avenue Patton et l'avenue de Rochester s'appelle Monsieur Armand Tufin de la Rouerie. Armand de la Rouerie était un héros de l'indépendance des États-Unis, qui est né à Fougères, et donc c'est dans la direction de l'avenue de Rochester, et qui habitait à Saint-Ouen-la-Rouerie, qui est dans la direction de l'avenue Patton. Cette avenue Patton a été dénommée en 1949, à l'époque quand la ville de Rennes a décidé de prendre une ville américaine pour être jumelée, et il se trouve qu'il y avait le fils d'un doyen de faculté, qui dit « mais pourquoi pas Rochester ? Moi je travaille avec la ville de Rochester, puisque je travaille pour la société Kodak ». Or, Kodak était implanté à Rochester. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ici une usine de Kodak. Le jumelage date de octobre 1958. Et là, on a dit, on va mettre l'avenue de Rochester qui est perpendiculaire à l'avenue Patton.
La ville de Rochester se trouve être la troisième ville de l'État de New York et c'est située sur les rives du lac Ontario.
Éric Beatty, président du comité de jumelage Rennes-Rochester.
C'est un peu grâce au président Eisenhower qui a demandé à rapprocher les villes européennes et américaines par les jumelages. À partir de là, la ville de Rennes a entendu cet appel au jumelage et dans les années 50. Les maires Yves Milon et Henri Fréville voulaient trouver un moyen de remercier les alliés d'avoir libéré Rennes le 4 août 1944. Il n'y avait pas meilleur moyen que de rapprocher deux villes.
Nathalie Bidan, référente pour la Bretagne de l'Office national des combattants et victimes de guerre en charge de la mémoire.
On ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, 80 ans après, comme dans les années 50-60, où on était plutôt dans une glorification. La particularité de la mémoire, à la différence de l'histoire, c'est qu'elle se développe. Et la mémoire des conflits contemporains, elle évolue aussi. Le travail des historiens se développe en parallèle. Et puis aussi, je pense que la parole se libère. Il m'est arrivé d'avoir en face de moi des témoins qui vont me raconter des choses. Il y a effectivement eu plusieurs fois des exemples, surtout par les femmes, qui ont vécu souvent des atrocités. Je pense notamment à une femme qui m'a parlé de sa mère qui était dans un réseau de résistance et qui s'est fait violer, non pas par des Américains, des Allemands, mais par des Français qui faisaient partie de son réseau de résistance. Ça enlève toute l'image glorieuse de ces résistants et de pourquoi ils ont résisté, etc. Donc c'est très très difficile et courageux d'en parler et ça vient de plus en plus en effet. Il y a une particularité quand même en Bretagne, c'est un lien très très fort avec la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on est une terre de maquis, parce qu'il y a eu l'île de Saint où sont partis les premiers résistants. Il y a un attachement très fort à cette mémoire qu'on essaye justement de faire vivre et de faire perdurer auprès des jeunes générations. On va leur permettre d'appréhender la mémoire autrement, qu'ils soient eux-mêmes acteurs de cette mémoire. Pour les 80 ans, on a proposé un escape game théâtralisé qui s'est déroulé le 23 mai dernier. L'objectif, c'était d'accueillir 400 participants et de les mettre dans la peau de résistants la veille de la libération. On leur donnait une lettre, une missive d'un certain général Le Vigan et on leur proposait de libérer l'hôtel de ville de Rennes, qui était la place forte, juste avant l'arrivée des Américains. Donc ils ont déambulé dans les rues de Rennes et ils sont allés à la rencontre de comédiens qui ont pris le rôle de personnalités, qui ont vraiment participé à la libération, qui leur ont donné des indices, des énigmes et qui leur ont raconté aussi la vie de ces personnages. Et à la fin du jeu, ensemble, ils devaient s'emparer de l'hôtel de ville. Juste avant l'arrivée de reconstituteurs américains qui sont arrivés avec leur jeep sur la place de l'hôtel de ville et des drapeaux américains et français pour montrer que c'était la libération.
Aujourd'hui, 4 août 2024, nous commémorons le 80e anniversaire de la libération de Rennes.
On est vraiment sur un tournant, on s'en rend compte depuis certaines années. La pratique de la commémoration, c'est-à-dire de se rendre aux cérémonies, elle devient de plus en plus compliquée parce que les jeunes, ils sont éloignés en fait de cette pratique. Je suis convaincue par le travail de mémoire et je suis convaincue que les jeunes en ont vraiment besoin pour trouver du sens à ce qui se passe aujourd'hui, notamment en cette période un peu conflictuelle.
C'était Rennes libérée, un podcast réalisé par Héloïse Descartes. Merci à Anne-Marie Thomas et Étienne Ménion pour leurs précieux témoignages, à Jacqueline Saint-Clévier, Joël David, Éric Bitti et Nathalie Bidon pour leurs éclairages, et aux archives municipales de Rennes pour leur partage.